Au micro, Idrissa Seloudia, bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Dernière minute, le groupe français Total confirme ce lundi la suspension de son gigantesque projet gazier au Mozambique, interrompu après une attaque djihadiste début avril, indiquant dans un communiqué avoir déclaré une situation de force majeure. Cette notion juridique est invoquée lorsque des conditions exceptionnelles empêchent la poursuite d'un chantier et l'exécution des contrats qui y sont liés. Au Tchad, les militaires au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby Itno ont annoncé dimanche soir leur refus de négocier avec les rebelles qui ont lancé il y a 2 semaines une offensive contre la capitale et s'étaient dit la veille ouvert en cessez-le-feu. Claire Morin-Jubourg fera le point. 3 casques bleus ont été grièvement blessés dimanche au Mali dans des tirs de roquettes contre leur base militaire dans le nord du pays. Michel Joseph nous en parlera. Le gouvernement libyen a annoncé hier soir, sans en donner les raisons, le report d'un conseil des ministres initialement prévu lundi à Benghazi, qui devait également marquer la première visite du premier ministre Abdelhamid Dbeiba dans l'est du pays, en quête de stabilité après une décennie de chaos. Quelques heures auparavant, l'équipe sécuritaire chargée de préparer la visite avait dû rebrousser chemin après avoir été refoulée à son atterrissage à l'aéroport de Benghazi par les autorités locales sur place, l'obligeant donc à reprendre l'avion. Et ce, malgré l'embellie politique des derniers mois, selon l'AFP. Benghazi est un fief du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. Libye toujours, au moins 22 personnes ont été condamnées à mort depuis 2018 par des tribunaux militaires et des centaines d'autres ont été emprisonnées après des simulacres de procès dans l'Est du pays, a indiqué lundi Amnesty International. Ces procès militaires, secrets et manifestement inéquitables, visent à punir les opposants de l'ANL, l'autoproclamée armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, a fustigé l'ONG dans un rapport. Des tirs résonnaient sporadiquement hier soir à Mogadiscio après une série de confrontations dans la journée entre hommes armés et forces somaliennes en marge d'une manifestation d'opposants au président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo, au mandat expiré depuis février et prorogé par l'Assemblée nationale de 2 ans. La Somalie est donc plongée dans une crise politique profonde marquée par son incapacité, faute de consensus politique, à organiser des élections comme prévu. L'Inde, qui ne parvient pas à juguler la flambée épidémique, a recensé dimanche près de 350 000 nouvelles contaminations au coronavirus sur 24 heures, un record mondial, et les autorités locales ont décidé de prolonger d'une semaine le confinement dans la capitale New Delhi. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et d'autres pays ont annoncé dimanche qu'ils allaient envoyer de l'aide à l'Inde, notamment en oxygène, en respirateur et en composants pour la production de vaccins. En Irak, plus de 80 personnes ont péri dimanche dans la capitale Bagdad, arrachées à leur respirateur, asphyxiées par les fumées ou carbonisées dans l'incendie d'un hôpital se consacrant aux patients atteints par le coronavirus, une tragédie née de négligence qui ont valu une suspension au ministre de la Santé. L'ancien président péruvien Martin Vizcarra, 58 ans, a été testé positif au coronavirus 6 mois après avoir bénéficié d'une vaccination anticipée au chinois Sinopharm, ce qui avait suscité un scandale politique. L'écrivain français Florian Zeller a été récompensé dimanche aux Oscars pour le scénario de son premier film The Father, tandis que Chloé Zhao, grande favorite de la soirée avec son film Nomadland, est devenue la première cinéaste non blanche à remporter le prix du meilleur réalisateur. La suite de nos informations. Au Mali, 3 casques bleus de l'amunissement ont été grièvement blessés hier dimanche dans des tirs de roquettes contre leur base militaire dans le nord du pays. Les détails avec Michel Joseph.
Le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, Olivier Salgado, a confirmé que l'attaque avait eu lieu dans l'après-midi à Tessalit, ville du nord malien, qui accueille des soldats maliens, des casques bleus et des soldats français. 3 casques bleus ont été grièvement blessés durant l'attaque, a ajouté le porte-parole sans dévoiler leur nationalité. Des évacuations médicales sont en cours, a-t-il dit, sans donner de précision. Un représentant local de Tessalit, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que le camp avait essuyé des tirs de roquettes touchant la caserne des casques bleus du Tchad. La situation est actuellement calme et sous contrôle, a-t-il ajouté. Depuis 2012, le Mali est en proie à des violences djihadistes qui ont plongé le pays dans une crise sécuritaire et se sont étendues au centre du pays. Les violences se sont également propagées au Burkina Faso et au Niger voisin.
Au Tchad, la junte militaire au pouvoir a annoncé hier dimanche son refus de négocier avec les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, qui s'était dit ouvert à un cessez-le-feu la veille. Claire Morin-Gibourg.
L'heure n'est ni à la médiation, ni à la négociation avec des hors-la-loi, a déclaré Azem Bermandoa Aguna, le porte-parole de la junte à la télévision nationale. Les rebelles du FACT ont lancé il y a 2 semaines une offensive contre le régime et sont accusés par l'armée d'avoir tué le chef de l'État Idriss Déby Itno. La junte a aussi appelé le Niger, pays frontalier du Tchad, à coopérer en vue de faciliter la capture de ces criminels de guerre, dont leur chef, Mahamat Mahdiali, responsable à leurs yeux de la mort de plusieurs dizaines de soldats tchadiens. Toujours selon Azem Bermandoa Aguna, les rebelles du FACT sont en train de se regrouper en territoire nigérien. Mahamat Mahdiali a démenti être au Niger et a affirmé être toujours au Tchad dans la région du Kanem. Samedi, le FACT s'était dit ouvert à un cessez-le-feu suite à une médiation lancée la veille entre les militaires et les rebelles par les présidents du Niger et de la Mauritanie, membres de l'organisation du G5 Sahel, tout en déclarant que son groupe armé s'était fait bombarder dans la matinée. Dimanche soir, face au refus de négocier de la junte, Mahamat Mahdiali a affirmé que ses hommes répliqueraient aux attaques.
12 policiers ont été tués hier en Afghanistan, dont 7 dans une embuscade tendue par des talibans au sud de Kaboul, alors que le retrait des troupes étrangères sur place s'organise. Jean-Roger Bion.
L'attaque la plus meurtrière a eu lieu dans la province de Logar, au moment même où le commandant des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, le général Scott Miller, déclarait que les préparatifs avaient commencé pour le retrait des forces étrangères encore présentes dans ce pays, comme l'avait récemment ordonné le président Joe Biden. Le ministère afghan de l'Intérieur avait pu auparavant souligner que les talibans avaient perpétré 6 attentats à suicide et au total commis 62 attentats à la bombe au cours des 10 jours précédents, faisant plus de 60 morts et 180 blessés parmi les civils. Le général Miller a quant à lui assuré que les préparatifs avaient commencé pour remettre les bases restantes aux forces afghanes et retirer les soldats américains. Le gouvernement américain prévoit le retrait de toutes les troupes américaines d'Afghanistan d'ici au 11 septembre, le jour du 20e anniversaire des attentats de 2001. Le départ des 2500 soldats américains débutera le 1er mai avec ceux de l'OTAN. De nombreux analystes considèrent que ce retrait pourrait plonger l'Afghanistan dans une nouvelle guerre civile ou permettre le retour au pouvoir des talibans qui en avaient été chassés fin 2001.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Gabon, la production de minerais et d'agglomérés de manganèse a progressé de 25,2% pour s'établir à 8,449 millions de tonnes l'an dernier, suite aux performances records enregistrées sur les gisements de Moanda et de Franceville, ainsi que la mise en exploitation du gisement d'Okundja, a annoncé la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, citée par le journal L'Union. Le PIB réel du Burkina Faso devrait augmenter de 5,1% cette année et de 5,2% l'an prochain, à mesure que le secteur des services se redressera et que les investissements publics augmenteront si la pandémie était maîtrisée d'ici le début du second semestre. Le taux d'inflation devrait passer à 2,1% en 2021 et à 2,7% en 2022 en raison de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Pour terminer, l'économie de l'île Maurice s'est contractée à 15% en 2020 contre une croissance positive de 3% en 2019. Le tourisme et l'hôtellerie, qui contribuent traditionnellement à environ 24% du PIB et représentent 22% de la population active, ont subi une perte de valeur ajoutée estimée à 75%. Seul le secteur de l'information et des télécommunications s'est développé, soutenu par une forte utilisation des services technologiques et du télétravail pendant le confinement.
Merci Nanit. Et maintenant les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Volleyball pour commencer avec le championnat d'Afrique masculin des clubs champions qui se déroule actuellement en Tunisie.
Oui, et on connaît les finalistes à l'issue des demi-finales disputées hier dans le duel tunisien. L'Espérance de Tunis s'est imposée face au club olympique de Kelibia 3-7 à 0, tout comme les Égyptiens du Zamalek du Caire face aux Libyens d'Al-Souheli. La finale aura lieu demain mardi dans l'après-midi.
Football à présent, après avoir été élu à la tête de la CAF, le président Patrice Motsepe a tenu sa première réunion au Caire.
Accompagné de son secrétaire général, Véron Mosengo Umba, et de hauts responsables du football égyptien, le Sud-Africain a tenu plusieurs réunions, notamment avec le ministre égyptien de la Jeunesse des Sports, Acharaf Sorbi. Il s'est ensuite rendu dans les bureaux de la CAF, où il a rencontré les principaux directeurs et chefs du département de l'administration avant d'aller au Maroc pour une visite de travail. Une réunion qui intervient en droite ligne de sa déclaration lors de l'Assemblée générale de la CAF, où il a affirmé le rôle important et fondamental que joue le Maroc à travers sa fédération dans la mise en œuvre de nouveaux projets de développement de la pratique du football sur le continent africain.
Direction l'Afrique du Sud, l'annonce pour le futur sélectionneur des Bafana Bafana reportée.
Tout à fait. La Fédération Sud-Africaine de Football avait prévu de dévoiler l'identité du nouveau sélectionneur des Bafana Bafana suite au limogeage de Molefin Seki après la non-qualification pour la CAN 2021. Mais l'instance a fait savoir que cette annonce est finalement reportée à une date ultérieure en raison des problèmes mondiaux de déplacement à cause du Covid-19. Selon les infos, le Portugais Carlos Queiroz, qui avait dirigé la sélection entre 2000 et 2002, est bien placé pour prendre le poste. Les noms du Belge Hugo Bros, vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun, et des locaux comme Bénédicte McCarthy et Pissou Moussimane circulent également.
Éliminatoire du Mondial 2022, le match Burkina Faso-Algérie, délocalisé au Sénégal.
Prévu entre le 11 et le 14 juin, cette explication comptant pour la deuxième journée du groupe A ne se jouera pas à Ouagadougou. En raison de la suspension du stade du 4 août par la CAF pour cause de non-conformité, cette affiche sera délocalisée au stade La Diop de Thiès au Sénégal. Avant ce match, l'Algérie débutera les qualifications par la réception de Djibouti le 5 juin à Blida, tandis que le Burkina Faso se déplacera au Niger entre le 5 et le 8 juin.
On fait à présent le point sur quelques championnats africains.
Oui, et en Côte d'Ivoire, on jouait hier la phase retour de la première phase du championnat. Afad de Djekanou, vainqueur de 1 d'Africa Sport, continue son sans-faute dans le groupe A avec 6 victoires en autant de matchs. C'est bien l'ASEC Mimosa qui domine la poule B avec 14 points. Au Togo par contre, c'est la fin de la phase aller du championnat et Gomido de Palimé, leader du groupe A, a été accroché par Ange de Nontien 1 but partout. Son dauphin, l'AS OTR, n'a pas su profiter en concédant aussi le nul 0-0 face à l'Entente 2. Dans la poule B, l'ASCK en tête du classement n'a pas aussi réussi à s'imposer face à ses massifs de Sokodé, score 1 but partout. Son rival, Asco de Kara, en profite pour revenir à 2 points après avoir battu 2-1 Ifoje d'Atakpamé.
Élisée, c'est déjà les play-offs au Bénin. On jouait ce week-end la deuxième journée.
Exactement, Idrissa. Et deuxième victoire pour Esaü, tout comme Ayema, qui partage désormais la première place au classement. Par contre, Sakal pour les requins de l'Atlantique, battu 1-0 à domicile par Rodio FC de Comin. contre-performance également des Dragons de Lomé accrochés à domicile 2-2 par Béké FC de Mbeke, tout comme les Buffs du Borgou champion en titre qui signe un second nul en deux journées. Et puis, le championnat tire à sa fin en RDC. Emmanuellement Union garde la première place avec 50 points après son nul 0-0 face à l'ASV Club classé deuxième avec 49 points. Le TP Mazembe rate l'occasion de reprendre la tête du classement en concédant le nul 2 buts partout à domicile face à la Jeunesse sportive de Kinshasa.
Merci Élisée. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les déclarations du président français Emmanuel Macron vendredi, lors des obsèques du président Idriss Déby à N'Djamena, suscitent des réactions dans le pays, notamment au sein de l'opposition et de la société civile. Monsieur Macron est critiqué pour avoir, dit-on, apporté son soutien au conseil militaire de transition. Les acteurs politiques, notamment de l'opposition, voient dans cette déclaration une provocation et un soutien à un coup d'État institutionnel. André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La transition aura ce rôle à jouer.
Le président français Emmanuel Macron, lors des obsèques du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, pour beaucoup dans la classe politique tchadienne, cette sortie est une reconnaissance officielle de la légitimité de la junte militaire mise en place après le décès du président Déby, une junte qui s'est donnée pour rôle de conduire la transition pendant 18 mois, alors qu'à l'intérieur du pays, des voix s'élèvent pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Maître Doudjoum Senghar Tatolngar est connu dans le milieu judiciaire à cause de son franc-parler. Il coordonne des actions pour la gouvernance démocratique, la justice et l'égalité sociale.
La France pense se trouver dans une période post-coloniale, mais nous disons que la France a intérêt à faire très attention et je crains qu'on nous pousse au pire que ça. Le problème, il est trop simple. Les gens ne cherchent pas à savoir pourquoi il y a eu des révolutionnaires qu'on appelle des rebelles, il y a des révolutionnaires qu'on appelle des terroristes, mais on n'a jamais cherché à savoir pourquoi ces gens sont devenus des opposants, des rebelles, des terroristes. Que des intérêts français passent au-delà de tout. Je crois que ces intérêts seront menacés.
Le secrétaire général du Conseil de commandement militaire pour le salut et la République, Mahamat Ali, membre de la coalition rebelle, qui a lancé l'offensive du 11 avril dernier, s'insurge contre les propos du président français.
Le président Macron a tort. Ce qu'il a dit va augmenter les sentiments anti-français dans toute l'Afrique, parce que dans son discours, on a l'impression qu'il soutient un coup d'État.
La coordination des actions citoyennes et mouvements politico-civils passe déjà à une vitesse supérieure. Elle entend gérer la rue ce mardi pour dire non à la transition militaire. Maître Max Loalngar, président de la LTDH et porte-parole de la dite coalition.
La population tchadienne est appelée à s'assumer face au refus de l'opinion internationale de nous accorder sa protection et sa caution internationale. À ce titre, nous appelons dès mardi la population tchadienne à sortir dans les rues sur toute l'étendue du territoire pour une manifestation publique.
Docteur Succès Masra, qui a été reçu par le président du G5 Sahel avec les autres personnalités politiques en marge des obsèques du président Déby, propose ceci.
Il faut à la tête un président civil qui sera accompagné d'un vice-président chargé des questions sécuritaires et de défense. Ça permettra qu'à la fois on retrouve la légalité, la cohérence avec la charte de l'Union africaine qui condamne tous les coups d'État parce que nous sommes dans une situation de coup d'État. Mais malgré la transition, il faut aussi s'occuper des autres aspects. Et donc la meilleure manière d'y arriver, c'est justement de nommer un premier ministre qui sera suffisamment consensuel. Donc, aucun partenaire de notre pays ne doit s'inquiéter que la question sécuritaire sera oubliée. Non.
Depuis le décès, il y a presque une semaine, du président Déby, qui a dirigé le pays pendant 3 décennies, le Tchad est désormais géré par une transition militaire dirigée par un des fils du défunt maréchal. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes sont descendues ce week-end dans la rue à Fada, grande ville de l'Est en proie au terrorisme, pour réclamer davantage de sécurité, de meilleures infrastructures routières et des hôpitaux de qualité. Ces manifestants accusent l'État de négliger cette partie du pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Plusieurs milliers de personnes sont descendues samedi dans les rues ici à Fadan-Gourma, à plus de 200 km de Ouagadougou, dans l'est du pays. Une région qui souffre depuis des années de la présence de groupes djihadistes. En tête de liste des revendications, l'amélioration de l'état des routes dans la région.
Ce qui est malheureux, c'est un corridor qui est beaucoup rentable pour l'État. Et on cherche à comprendre pourquoi on ne fait pas un effort pour nous réparer cette route. Malheureusement, l'État refuse, on ne sait pas. Mais nous souhaitons vraiment que cela soit accéléré.
La vie de ce pays-là, on voit que vraiment on est abandonné même. L'insécurité, là, vraiment, nous abat ici. On n'est pas en paix. On ne dort pas en paix. Oh, le chantier, la santé, ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses.
L'oubli d'une région qui peut être la locomotive d'une nation. Et ça, nous sommes engagés à 100% pour que ceux qui ont l'oreille attentive, ceux qui ont l'écoute attentive, puissent comprendre qu'en fait, derrière une région, il y a un peuple.
En plus de l'état difficile des routes, la région a des ressources minières mal exploitées selon Rasmane Zinaba, un leader du Balai Citoyen, une organisation de la société civile.
Que ce soit sur la question de l'exploitation du phosphate qui doit profiter aux populations ou que ce soit encore sur la question des infrastructures, et vous avez fait la route jusqu'à ici, vous avez compris que Gungun Fada, c'est déjà un calvaire. Nous espérons que ce message qui a été porté va atteindre les autorités et qu'il y aura des éléments de réponse.
Pendant qu'à l'Est, les populations sont dans les rues. Le président Kabore était dans le centre-sud où il inaugurait une route régionale.
Nous devons demander à nos populations d'avoir de la patience.
Roch Kabore.
Les engagements que nous prenons dans le cadre de ces constructions de routes sont des engagements que nous allons tenir. C'est vrai, le fait que des routes ne soient pas démarrées cause beaucoup de préoccupations pour nos populations, nous en sommes conscients. Nous devons savoir qu'en matière de développement, ce n'est pas une question de course. Il faut bien travailler les routes.
La marche de Fada qui est organisée par le mouvement Ougoulmoufi, en langue locale, le Goulmou se met debout en français, ne compte pas s'arrêter là. Emmanuel Ouba, porte-parole du mouvement.
Le mouvement, bien sûr, ne peut pas s'arrêter en tout cas à la seule manifestation de ces jours. On va toujours en tout cas rester, comme je disais, sur la veille et puis voir effectivement l'évolution sur le terrain et en fonction de cela, les structures membres donc du mouvement apprécieront.
Une trentaine d'organisations de la société civile ont accompagné le mouvement. Aussi, des participants à la marche sont venus de plusieurs villes du Burkina Faso, mais également ceux venus du Niger, du Bénin, du Togo, du Ghana, de l'Angleterre. Pour cette marche historique, disent les organisateurs. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Après la mort d'Idriss Déby Itno, le Nigeria s'inquiète et renforce la sécurité au niveau des frontières avec le Tchad. Les troupes tchadiennes jouent un rôle clé dans les missions de maintien de la paix et les opérations de contre-insurrection à travers le continent. Le quartier général de la force opérationnelle interarmée multinationale combattant Boko Haram se trouve également à N'Djamena, la capitale du Tchad. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, revient sur la contribution du défunt président tchadien dans la lutte contre Boko Haram.
Sous le régime du défunt président tchadien Idriss Déby, l'armée tchadienne était la principale force dans la lutte contre Boko Haram, permettant au Nigeria de reprendre le contrôle des principales villes et territoires dans le nord-est. Dès l'annonce de la mort d'Idriss Déby, le président nigérien Muhammadu Buhari a déclaré que la mort du président tchadien créerait un grand vide dans les efforts conjoints contre le groupe terroriste Boko Haram. Camille Oufagé de la faculté de sciences politiques de l'université de Kano dans le nord-est du Nigeria partage le souci du président nigérien.
He was able to stabilize not only Chad but the sub-region.
Il a pu stabiliser non pas seulement le Tchad, mais toute la sous-région, surtout après le début de l'insurrection de Boko Haram. Idriss Déby était l'un des farouches opposants de cette insurrection. Donc sa mort est comme un revers par rapport à cette crise.
Le Nigeria et ses partenaires doivent désormais se mobiliser pour une plus grande coopération pour vaincre les terroristes de la région sans Idriss Déby Idno. La tâche s'annonce difficile pour le Nigeria, comme le souligne Kabiru Adamu, directeur général de Bacon Consulting Limited.
For someone who has positioned himself as a strategic leader and has helped in maintaining
stability, pour quelqu'un qui avait réussi à s'imposer comme un leader stratégique pour maintenir la stabilité, c'est un rôle qu'il a joué. Maintenant qu'il n'est pas là, cette stabilité est menacée. On ne sait pas si la junte au pouvoir dirigée par son fils pourra jouer ce rôle de stabilisation. C'est un grand vide de vulnérabilité qui s'ouvre pour le Nigeria d'abord, ensuite pour la région du Lac Tchad et le Sahel en général.
De nombreux Nigériens saluent le rôle joué par Idriss Déby dans ces conflits, comme Hidayat Hassan du CDD, le Centre pour la démocratie et le développement.
C'est une grande perte pour nous, puisqu'il a été un allié principal du Nigeria et du Niger en particulier, et en une certaine manière, le Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. En plus, sa capacité de collaborer avec les autres régimes ou des chefs d'État en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Boko Haram, une organisation armée nigériane fondée en janvier 2002 avec pour objectif une application stricte de la charia islamique. Idriss Déby a accru la participation du Tchad à la force multinationale mixte pour freiner la menace de l'organisation terroriste dans la région du lac Tchad. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ne laissons aucun enfant handicapé en marge de l'éducation, c'est le thème qui sous-tend cette année au Cameroun la campagne « We ring the bell », c'est-à-dire « tirer la sonnette ». Elle vise à mobiliser tous les acteurs de la chaîne éducative du pays pour la promotion de l'éducation inclusive. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julta.
Une enquête de l'Institut national des statistiques estime la population des personnes handicapées au Cameroun à 5,4%, soit 2 910 000 personnes handicapées, d'après les résultats du troisième recensement général de la population de l'habitat publié en 2010.
Tous les enfants handicapés ou non doivent apprendre dans les mêmes écoles. Sur ce...
La ministre des Affaires sociales a joint sa voix à la campagne de mobilisation visant à améliorer l'accès des enfants handicapés à l'éducation inclusive au Cameroun. Pauline Irène Guéné.
Le ministère des Affaires sociales s'assure de l'octroi chaque année des subventions aux institutions ou aux œuvres sociales privées et associations d'encadrement éducatif des personnes socialement vulnérables, l'octroi des aides financières et matérielles aux élèves et étudiants handicapés, du fonctionnement de 68 écoles inclusives sur l'étendue du territoire.
Qui sont cependant confrontés à la dure réalité sur le terrain. Suzanne Gompom-Guidiol est agent de développement inclusif à base communautaire. Elle travaille pour une association de promotion des personnes handicapées dans le 4e arrondissement à Yaoundé.
Les parents ne sont pas parfois réceptifs, c'est vrai, mais à un moment donné, du fait qu'ils voient à peu près comment les autres enfants, parce qu'on les invite au sein de Pro Handicap, effectivement, pour qu'ils essaient de voir dans quel environnement les autres enfants sont acceptés, recueillis et vivent toute la journée. Avant de rentrer à la maison. Lorsque le parent arrive, il est très émerveillé.
Pour encourager l'éducation des enfants, à mobilité réduite par exemple, l'Association pour la promotion des handicapés du Cameroun, Prom Handicam, fabrique des prothèses dans son atelier à Yaoundé. Luc Amougou est l'un des techniciens du dit atelier.
Ça, c'est les orthèses. Voilà les prothèses, les amputés. Celui-ci a ses membres. Celui-là, on a enlevé une partie de son membre. Les parents font la demande en fonction de l'handicap et puis on confectionne.
Émérite Kouofossier est père de jumelles de 9 ans. Cet enseignant dit qu'il éprouve des difficultés à garantir une bonne éducation à ses enfants.
Mes enfants sont sourds-muets. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un centre plus spécialisé. Ici, derrière l'hôpital central, je les ai amenés là-bas. Ça coûte 200 000 par enfant. Je suis fatigué financièrement.
L'éducation inclusive au Cameroun passe aussi par l'intégration des modules de formation sur cette catégorie d'enfants. Coco Bertin, promoteur du CERJAC, cercle des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun.
L'école normale envoie déjà ses élèves ici pour s'imprégner de l'éducation inclusive. Voilà. Et nous, certains de mes collaborateurs et moi, on ira donner des cours dans cette école-là.
La campagne globale We Ring the Bell est une initiative de Lilian Fonds, un organisme de soutien aux enfants handicapés. 102 pays y ont adhéré jusqu'ici. Le Cameroun a rejoint cette campagne depuis 2006 en collaboration avec la Cameroun Baptist Convention Health Service. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.